Cinérama.
Cinérama. Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas roter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour à tous, c'est Marine au micro de Cinérama. Nous sommes le mercredi 23 octobre. Nous sommes encore une fois à deux. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Oui, nous n'avons pas réussi à extirper Vincent des griffes de l'empire stalinien. Le camarade Pourageau sera, espérons-le, avec nous la semaine prochaine. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui, Manu ?
Eh bien, donc du film du nouveau Jean-Pierre Jeunet. Faut que je dise le titre correctement. L'extraordinaire voyage du jeune et surdoué T.S. Spivet.
On dira juste Spivet, donc.
Voilà. Et puis de trois films bis italiens qui sortent là en DVD chez des petits éditeurs.
Très bien. Vincent a quand même réalisé l'interview de Adrien Jolivet, réalisateur de La Tendresse, un film qui passe à l'Utopia. Nous l'écouterons tout à l'heure. Et moi, pour ma part, je vous parlerai du film Au bonheur des ogres de Nicolas Barry. Et je vous ferai une petite présentation succincte du prochain cinémètre qui commence vendredi. C'est Cinérama.
Cinérama. Cinérama. Cinérama sur Divergence FM.
Alors récemment, je lisais un article du Nouvel Obs très intéressant posant la question suivante. Pourquoi Jeunet est devenu ringard en 7 points ? C'est à lire sur le site d'ailleurs du Nouvel Obs. Je ne vais pas vous lire l'article. Mais il est vrai qu'on est en droit de s'interroger sur la ringardisation progressive du cinéma de Jeunet qui affichait pourtant à ses débuts, quand il était encore avec Marc Caro, un aspect un peu novateur ou du moins une fraîcheur à l'époque du Bunker de la dernière rafale ou de Délicatessen. Le succès phénoménal d'Amélie Poulain a joué un peu en défaveur du cinéaste qui s'est enfermé dans un système esthétique assez identifiable. Cadre surchargé de bibelots, des effets spéciaux poétiques et pseudo-bricolés, lumière tirant souvent vers le sépia, le jaunâtre voire, et puis une imagerie un peu poussiéreuse fleurant bon souvent « c'était mieux avant ». Après le catastrophique micmac à Tire-Larigot, bon, que je n'ai pas supporté au-delà de 20 minutes, l'extravagant voyage de Spivet, je ne vais pas le dire en entier à chaque fois, paraît un peu mieux tenu, plus sobre, moins enfermé dans un style daté sentant le formol.
Notre ranch était perdu en plein cœur du Montana. Mon père avait l'âme et la mentalité d'un cow-boy. Tous les soirs, il portait un verre de whisky à ses lèvres. Exactement. Toutes les 45 secondes. Comment mes parents avaient-ils pu se plaire ? Ils étaient comme le jour et la nuit. Quant à ma sœur, Gracie, elle rêvait de brûler les planches. Et puis il y avait mon frère, Layton, mon faux jumeau. Lui avait pris les muscles. Moi, les neurones.
Votre invention a remporté notre prestigieux prix Bird.
Wow.
Demain, je partirai pour Washington chercher mon prix. Chère famille Spivet, merci d'avoir pris soin de moi. Tout ira bien. Vous êtes une des meilleures familles du monde. Love, T.S.
Pas où tu vas, ni ce que tu cherches, mais reste comme tu es.
Bon, en déplaçant son récit aux États-Unis, fuyant ainsi une France fantasmée qui n'existe pas et qui n'a jamais existé, Jean-Pierre Jeunet filme aussi une Amérique provinciale de pacotille qui n'existe pas plus, mais qui a au moins le mérite d'être dépaysante. Adaptation d'un roman pour la jeunesse à succès, dont j'ignorais absolument l'existence, Spivet raconte le périple d'un petit génie de 10 ans qui a inventé la machine à mouvement perpétuel. Et tu vas me dire, Marine, mais qu'est-ce que la machine ?
En effet.
Je n'ai pas compris grand-chose à part qu'une ampoule peut allumer une pièce pendant 400 ans. Voilà, Je ne sais pas à quoi ça sert. On peut faire beaucoup de...
C'est peut-être le...
D'économie
le
d'énergie,
cinéma,
apparemment.
Sinon, la machine à mouvement perpétuel,
oui,
c'est un
je
peu,
pense qu'aussi, on peut avoir un problème...
Une métaphore du cinéma. Ah, la caméra, je ne sais pas.
Je n'y avais pas pensé, en fait. Bon, il vit en compagnie de sa sœur et de ses parents, un peu doudingue, dans un ranch isolé. Il porte en lui aussi un secret concernant son frère jumeau décédé. Et un jour, il prend sa valise et traverse une Amérique de fête foraine, plus que de carte postale, pour recevoir le prix Baird du musée Smithsonian de Washington. Je ne sais pas s'il ne doit pas exister, hein. Cherchez pas. Là-bas, personne ne se doute de son âge. Ce conte initiatique en 3D distille un ennui poli mais tenace de la première à la dernière image. Aucune émotion ne passe, hein. Jeunet semble un moment marcher sur les traces de Wes Anderson, sans jamais retrouver la liberté de ton et la fantaisie de l'auteur de La vie aquatique. En fait, tout semble figé, un peu cadenassé dans des conventions propres à la littérature de jeunesse la plus moralisatrice. Parce que le côté un peu sournois et infantile du réalisateur explose dans une dernière partie, fustigeant évidemment, c'est assez facile, le monde hypocrite de la science, des médias, du milieu urbain opposé au charme authentique du monde rural. Je pensais un peu à l'aurore là, parce que parce qu'il faut en parler à chaque émission. Les personnages négatifs sont des caricatures grotesques et il faut tout le talent de la très rare et formidable Judy Davis, que je n'avais pas vu depuis un moment, pour faire passer un personnage aussi horripilant que Gibson, une mante religieuse hystérique qui prend sous son aile le pauvre petit Spivet, pour des raisons purement mercantiles. Voilà, la partie road movie avant, justement, est un peu mièvre, dégoulinante de bons sentiments, mais se laisse à peu près voir. On retrouve des habitués de chez Jeunet, comme Dominique Pinon, dans un rôle de sympathique clodo. Helena Bonham Carter incarne, avec tout le talent qu'on lui connaît, la mère de Spivet. Voilà, c'est pas très très intéressant. Hein. Mais moi, c'est un cinéma qui me touche absolument pas. Enfin, un cinéma jaunâtre. On m'avait dit qu'il y avait plus beaucoup de jaune. Il y en a quand même beaucoup avec les champs de blé.
Très bien. Et c'est à voir au Gaumont.
Au Gaumont. Au Gaumont. Et Gaumont Multiplex. Pas au Diago ni au Royal.
Très bien, Spivet, eh bien, à ne pas voir, mais à voir quand même si vous voulez, au Gaumont. Et on continue tout de suite avec Au bonheur des ogres.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule,
Cinérama,
je suis allergique,
sur Divergence FM.
Encore jamais adapté au cinéma, Daniel Pennac, l'auteur entre autres de La Petite Marchande de Prose, a fait perdurer sa saga familiale et bellevilloise pendant une quinzaine d'années. C'est ici le premier de ses romans retraçant la vie de Monsieur Malocène qui est adapté par le réalisateur des enfants de Timpelbach, Nicolas Barry. Benjamin Malocène, en charge de ses nombreux frères et sœurs abandonnés par une mère déserteuse, travaille dans un grand magasin parisien en tant que bouc émissaire. Comprenez, il est là pour se faire engueuler à la place de ses supérieurs lorsqu'un produit est défectueux. Jusqu'au jour où son existence elle-même devient défectueuse, de mystérieux meurtres se produisent dans le magasin, faisant de lui le principal suspect.
Ça commence chez Lehmann.
Le chef du personnel ?
C'est inadmissible.
Et une cliente qui n'a pas l'air très contente non plus.
D'ailleurs, le responsable, le voici. Malocène, et d'un coup,
oui.
Une énorme explosion. Un feu d'artifice d'explosion.
Feu d'artifice ?
C'est parce qu'il y a la girafe. Il y a la girafe dans le magasin.
Pas de panique.
Je lui parle en girafe.
Ontakena !
À mon avis, c'est des conneries. Je suis sûr que c'est un attentat.
Pourquoi la vitrine a explosé ?
Parce qu'on va aller au lit.
C'est qui lui là ?
Benjamin Malocène, c'est notre contrôleur technique.
Sachez que vous êtes notre principal suspect.
Qu'est-ce que vous faisiez devant le local de vidéosurveillance ?
Je vous l'ai déjà dit, je draguais.
On va chez toi ?
Pardon ? Je draguais une inconnue, c'était une journaliste.
Ah, je suis pas comme ça, moi.
Ah non ? Je vous plais pas ?
N'empêche, trop cool, Danny Bar.
Et quoi, Danny Bar ?
Bah, Danny Bar, c'est le début de la paix dans le monde. Non, ma.
Le début du film laisse craindre le pire, trop rythmé, trop tapageur, assuré par un montage épileptique qui semble être devenu la base de tout film aujourd'hui. Il se complaît dans une esthétique du suranné que l'on se coltine à présent dans la plupart des comédies françaises. Le livre se passant initialement dans les années 80, le réalisateur a pris ici le parti, qui n'est même plus vraiment audacieux à force, de jouer sur la confusion temporelle en maniant les anachronismes à tout va. Les décors faits de néons roses, de plastique et de placement de produits intempestifs crée un écœurant capharnaüm visuel auquel la rétine met un certain temps à s'accoutumer. D'ailleurs, la chef décoratrice est morte juste après le tournage, ça l'a achevé. Pardon. C'est par ailleurs la seconde fois en 2 ans que la Samaritaine à Paris sert de décor à un film, puisqu'il y a eu également un segment de Holly Motors de Léo Scarès qui a été tourné là-bas. Alors néanmoins, passé ce douloureux premier quart d'heure, eh bien le film prend ses marques et devient plutôt drôle et agréable. L'atmosphère est, d'après mes lointains souvenirs, assez fidèle au roman, si tant est que l'on soit adepte de l'écriture quelque peu confuse de Pénac. Et les comédiens, Bérénice Bejo en tête, sont suffisamment convaincants pour donner vie au personnage, excepté un Emir Kusturica totalement léthargique. L'histoire, qui peine à se mettre en place, s'avère finalement assez prenante, les dialogues fusent et l'humour fonctionne.
Bienvenue dans la famille Malocène.
Coucou. C'est à toi tous les enfants ?
Non, c'est mes frangins, mes frangines.
Il va y avoir un autre mort, j'ai lu dans les cartes.
Tu crois que j'ai le choix ? Il y a un enfoiré qui liquide d'autres enfoirés, moi je me retrouve au milieu.
On a toujours le choix.
Je vous avais raison les flics, c'était pas un accident.
Vous croyez que c'est Malocène le poseur de bombes ?
On est en danger ?
Mais non, c'est un jeu.
Tu me prends pour un con ?
Vous savez où il est ?
Ah bah, la plupart du temps, il est dans la lune, il redescend que pour se mettre dans la merde.
Je crois que votre frère n'est pas celui que vous pensez.
Tu vas mourir ?
Ouais, non.
Ils se sont fait kidnapper par des ogres. Bon. Mais les ogres vont bientôt disparaître.
Je vais me rendre, hein. Y a pas d'autre solution.
Mais c'est une couille molle, ce mec !
C'est pas moi qui lui soufflais.
Personne ne bouge ! Ah non, c'est pas moi, hein !
C'est quoi ton vrai métier ?
C'est bouc émissaire.
Oui, d'ailleurs, je voulais préciser, il faut arrêter de mettre du C2C dans tous les films maintenant, là, c'est plus possible. Bref, on regrettera simplement que le rôle principal ait été donné à Raphaël Personnaz, alors qu'on aurait davantage imaginé prendre les traits d'un acteur un peu plus expressif, hein, bien qu'il essaye à coups de vêtements informes et de coupes peu flatteuses, de faire oublier que son physique agréable prédispose davantage au pub pour parfum qu'au cinéma indépendant. Bah, c'est malgré tout pas avec ce film qu'il va s'imposer comme un grand comédien, en dépit de ses efforts manifeste pour donner vie à Benjamin Malocène. C'est donc plutôt quand même une bonne adaptation. J'en suis presque à espérer que les tomes suivants soient également portés à l'écran par Nicolas Barry. D'ailleurs, il me semble que le film marche plutôt pas mal parce que la salle était absolument complète. Quand j'étais le voir hier, c'était plein. C'est déjà sorti depuis une semaine. Et c'est à voir au Gaumont Comédie et au Gaumont Multiplex. Et on continue, c'est toujours Cinérama.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
On va maintenant s'écouter l'interview réalisée par Vincent de Jolivet pour son film La Tendresse, qui est à l'affiche à l'Utopia.
Salut, Adrien Jolivet.
Oui, salut, Sam. Allô, vous m'entendez ?
Il est complètement fou, ton fils.
De qui tient ça ? Notre fils.
31 ans, j'ai joué dans La Tendresse, un film de Marion Hansel.
La Tendresse, si on raconte l'histoire brièvement, vous jouez donc le fils d'un couple séparé depuis 15 ans, interprété par Olivier Gourmet et Marilyn Canto. Vous faites du ski, du surf, vous en faites mal, donc vous tombez, vous avez une fracture. Vos parents habitent en Belgique et ils font cette espèce de trajet donc de la Belgique à la Savoie. Donc c'est à cause de vous qu'ils se retrouvent 15 ans après.
Oui, c'est normal, c'est-à-dire qu'ils m'ont engendré. Ils ont couché ensemble il y a 25 ans, on va dire, parce que j'ai 25 ans dans le film. Et tout d'un coup, ma mère reçoit un coup de fil de moi qui suis à l'hôpital et qui lui dit « Maman, il faut que tu payes la facture. » Parce que comme je suis belge, je n'ai pas d'assurance maladie, je n'ai pas la sécurité sociale. Et forcément, les frais d'hôpital coûtent cher. C'est surtout un prétexte pour qu'un couple de divorcés puisse revivre une partie de leur romance, on va dire, ou en tout cas une partie de ce qu'ils ont vécu ensemble à travers leur fils unique qui se retrouve tout seul, perdu au milieu de la montagne, sans pouvoir régler la note de l'hôpital.
Et ça, on le comprend à peine, hein, d'ailleurs, qu'ils ne puissent pas régler, c'est simplement qu'ils vont le rapatrier. Alors, il se trouve que ce fils, c'est assez intéressant, hein, finalement, dans ce film, qui s'appelle La Tendresse. Alors, ça concerne plutôt vos parents, donc, qui ont été séparés. Mais vous vivez une histoire d'amour naissante avec une jeune fille, et vous n'êtes pas du tout dans la même génération. Et eux, ils vivent quelque chose qui s'est arrêté. Et puis, il y a comme ça des petites aspérités qui reviennent. C'est ce qui reste, c'est La Tendresse.
Effectivement, je crois que tu as bien soulevé le fait que ce sont deux couples et il y a un esprit quatuor amoureux, je dirais, et transgénérationnel dans le sens où c'est un vieux couple qui s'est séparé et un couple qui est en devenir. Et effectivement, il y a une sorte de parallélisme de ces parents qui ont vécu une séparation, qui ont un enfant en commun, qui vont se retrouver à cause de cet enfant-là. Et nous qui sommes en train de vivre, en tout cas moi et Margot Châtelier qui joue ma copine dans le film, qui sommes en train de vivre une passion amoureuse naissante. Et quelque part, il y a une sorte de parallèle qui se crée naturellement et qui était déjà visible d'ailleurs à la lecture du scénario, qui est que donc dans la vie, on s'aime et puis un jour on se sépare et puis peut-être un jour on se retrouve. Et la vie est pleine de surprises et je crois que c'est aussi le propos du film, ouais.
Je crois que là, il est amoureux.
Ah bon ? Comment tu sais ça ? Tu m'en as voulu ?
Hein ?
Tu m'en as voulu ?
De quoi ?
De t'avoir quitté. Ils sont où, tes superposés ? Hein ?
Bah, ils ont dû se tromper de chambre.
C'est-à-dire que les 15 ans qu'ils n'ont pas vécu ensemble disparaissent à l'instant T où ils se revoient. C'est un truc qui est très très fort dans le film, c'est quand il vient la chercher en bagnole, qu'il est là avec sa caisse et qu'il dit bon ben on y va, t'es prêt, je sais plus, lui donner un petit nom, c'est quoi, je sais pas, Bichon, mais il lui donne un petit nom, Olivier, comme ça, qui est assez juste, qui fait que on sait qu'ils sont séparés, ils sont plus ensemble, que c'est un couple de divorcés, mais en un quart de seconde, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur leur couple, sur ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont vécu, et l'histoire qu'ils ont ratée, enfin, sur leur échec amoureux. Et je crois que déjà, c'est quelque chose qui fait appel à l'intelligence du spectateur, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'on puisse faire comprendre qu'il y a autre chose. Et, voilà, ne pas dire les choses, mais tout en essayant de faire passer l'essentiel, enfin, tout en gardant l'essentiel, j'ai envie de dire. Et ça sort pas mal du film, quand même. Enfin, ça sort bien dans le film.
Alors tout à l'heure, on parlait justement eh bien, des deux relations qui sont en parallèle. Ce qui manque à ce couple, donc vos parents, c'est quand même la dimension sexuelle. Parce qu'il en est souvent question. Vous commencez une histoire, donc forcément vous embrassez. Enfin, il y a le contact. Alors qu'eux, ils sont sans contact. Et les rares contacts que l'on voit, ce sont des petits bisous, à la limite des gestes de la main. Enfin voilà, ça ne va pas plus loin. Donc il y a ce contraste-là entre ces deux histoires.
Je déteste faire les scènes d'amour et j'étais très content qu'il n'y ait pas de scènes d'amour dans le film. Et j'aurais trouvé ça mal placé parce que appeler un film La Tendresse et puis que tout le monde se mette à coucher ensemble, ça, j'aurais trouvé ça bizarre. Quoi.
Monsieur ! Monsieur ! Vous allez où ?
À Trondheim.
En Norvège ? C'est loin ça.
Et vous allez où ?
Moi je suis ce 4x4 gris.
Ah bon ? Et ta mère au volant, il n'y a pas beaucoup de progrès.
Repensez à la première image, enfin, qui est assez saisissante. Parce que c'est important, hein, la manière de rentrer dans un film, il y a toujours un seuil. Et soit on va vers des plans larges, soit on va vers des plans au contraire très serrés. Là, c'est un plan large. Et au bout d'un moment, on vous voit dévaler en... Alors, on apprend quand même que vous êtes doublé à ce moment-là.
Ça a été un drame.
Vous faites du hors-piste, hein, vous êtes dans une montagne seule, vous êtes en couple et vous vous cassez la jambe. Donc, c'est ce que vous disiez hein, au début. C'est-à-dire qu'une histoire d'amour, ça peut se terminer. Et là, ça se termine. Ça fait mal.
Ce que tu veux dire, c'est que l'accident crée une rupture qui a été vécue par le couple de Marilyn Canto et d'Olivier Gourmet qui font les acteurs principaux. Effectivement, toujours est-il que c'est juste un accident de ski, enfin, faut aussi le vivre simplement. Je pense pas que Marion ait pensé à tout ça avant de faire le film.
Pourtant, c'est une belle image, hein, parce que vous êtes vraiment tout seul dans la montagne, alors quand on est amoureux, bah oui, on est tout seul, on est amoureux, tout va bien, et puis à un moment, ça peut s'arrêter. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'arrête ?
Écoute, c'est une très bonne analyse. Je crois que je vais ramener ça directement en Belgique pour parler de ça à Marion. Putain, c'est un film plus intelligent que je ne le pensais.
Ah, ça fait du bien de venir à Alès.
Oui, ça fait du bien.
C'est drôle, j'ai rarement vu deux personnes aussi différentes. Je sais pas, qui ont l'air de s'aimer encore comme ça.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Et on enchaîne tout de suite avec la chronique DVD de Manu.
Et donc, rien à voir avec les films précédents chroniqués. Là, on rentre dans le domaine du bis, voire du Z. Les films bis italiens ne sortent plus en DVD que par parcimonie, d'ailleurs. Seul Artus offre des pépites rares dans le genre et une vraie ligne directrice éditoriale. Je dis ça, mais je ne vous parlerai absolument pas d'Artus aujourd'hui, bien que je vienne de le faire en même temps. Hein, c'est une pub indirecte. Mais de trois films qui sortent chez trois éditeurs différents. Donc le premier, allez, La Légion des damnés. Commençons donc par un vrai film d'homme que propose Sidonis dans leur collection dédiée aux films de guerre. La Légion des damnés d'Umberto Lenzi, réalisateur stakhanoviste qui a œuvré dans tous les genres possibles. Les titres parlent d'eux-mêmes, hein, Cannibal Ferox, Massis contre Zorro, L'Avion de l'Apocalypse, Marie Larousse, Femme Pirate, Si douce, si perverse. Non, non, c'est vrai, il n'y a que des titres réels. Hein. Et pardonnez-moi, vous êtes normal. Bon, voilà. Et il en a fait une centaine à peu près, entre 50 et 100 films. La Légion des damnés est un honorable film de guerre, pompant sans vergogne et douce salopard, sans jamais retrouver le punch et la noirceur du film d'Aldrich. Mais cette mission suicide pour démanteler une opération organisée par les nazis possède un atout très curieux, voire même douteux. Le film oppose deux personnages, le colonel Macpherson, censé représenter le valeureux héros du monde libre, et le général Ackermann, soldat SS à la botte d'Hitler. Et étrangement, ce dernier apparaît comme bien plus sympathique et humain que Macpherson, joué par un Jack Palance en roue libre, visiblement sous l'effet de l'alcool et autres substances. À mesure que le récit progresse, Macpherson apparaît vraiment comme un cas pathologique, n'agissant que par vengeance et prêt à tous les sacrifices pour arriver à ses fins. Alors qu'Ackermann est décrit comme un soldat intelligent, peu adepte des méthodes violentes de la Gestapo, et ne croyant même pas dans sa guerre. Enfin, ça, c'est vraiment un curieux choix scénaristique pour un film de consommation courante, en fait. Donc, on va changer de milieu avec un autre film d'homme. Hein. Que des films d'homme, en fait. Plein de testostérone, celui-là, que sort un éditeur indépendant, Ecstasy of Film. Je veux parler de La Guerre des Gangs ou de Lucas le Contrebandier. D'ailleurs, sur ce film, sur le deuxième DVD, il y a le film de François Gaillard. Comment il s'appelle déjà ?
Die Die My Darling.
J'avais un petit trou, là. En bonus, voilà. Seul Polizio Tesco, c'est comme ça qu'on appelle les polars urbains italiens, réalisé par Lucio Fulci, qui n'était pas tendre avec le genre La Guerre des Gangs, tourne le dos un peu au discours réac ambiant de ce type de film. Il ne s'agit pas de décrire un pays en proie à la corruption, malmené par des voyous chevelus et irresponsables, mais plutôt de réaliser un film qui se passe dans le milieu de la contrebande. Voilà. Le héros, Lucas, est de l'autre côté de la loi, mais il s'agit d'un contrebandier loyal à l'ancienne, qui ne cherche pas de vagues. Son trafic se limite aux cigarettes et aux courses hippiques. Je trouve ça assez drôle. Il va s'opposer aux Marseillais, un mafieux moderne qui veut investir le marché de la drogue. Voilà, sadique et sans scrupules, il va tenter d'éliminer tous ses concurrents. Le scénario est quand même là d'une grande naïveté, parce que Fulci croit sincèrement qu'il existe au sein même de la pègre des gentils d'un côté qui ne touchent absolument pas à la drogue, et de l'autre, les opportunistes qui n'hésiteraient pas à sacrifier leur mère pour vendre de la cam. Très curieux, parce que le film est quand même de 1980, il n'est pas non plus de 1950. Hein. Voilà, ce manichéisme est aussi une manière de ne pas prendre le film au sérieux et de le visionner pour ce qu'il est, un film d'action nerveux et déviant, très graphique, qui n'a rien à envier parfois à certains films gore. Le fait que Fulci l'ait réalisé entre l'enfer des zombies et Frayeur a dû vriller un peu son cerveau, et du coup il aborde le film de mafia classique comme un pur film d'horreur qui tâche. Bon, pas inoubliable, mais un polar bis ultra violent, efficace et simpliste hein, quand même, hein, très simpliste. Et enfin, cerise sur le gâteau, dans un tout autre genre, une petite gourmandise, un plaisir très coupable. Pour terminer donc cette chronique spéciale bis italien, Shark, le monstre de l'apocalypse, de son vrai nom en fait, Apocalypse dans l'océan rouge. Mais avant tout, écoutons un extrait quand même très révélateur.
Arrêtez. Je crois que vous venez de découvrir la vérité, Dr. West.
J'avais quelques soupçons, mais je suis maintenant tout à fait fixé. Mais je voudrais savoir pourquoi vous avez continué malgré mon opposition.
Parce que notre vie future est dans l'océan. Celui qui aura ses ressources en main pourra devenir très riche. Il y aura une puissance infinie.
Oui, c'est vrai. Mais pourquoi avoir créé ce monstre ?
Cette possibilité m'était offerte par ce monstre. Il devait obéir à mes ordres et être pratiquement invincible. J'ai rassemblé dans son code génétique l'agressivité du requin blanc, la force d'une pieuvre géante, l'intelligence d'un dauphin, et la monstruosité d'un poisson datant de la préhistoire.
Vous êtes malade.
Non, Donald. Désolé, c'est toi qui es malade. Si tu refuses de nous aider à manipuler pour nous cette force, ce monstre permettra d'avoir la puissance. La WOI ainsi arrivera à soumettre le monde entier. Le comprends-tu?
Une femme comme toi, Sonia, devient pire qu'une sale chienne. Je pense que le fait d'avoir pensé à offrir à ton mari et à ton amant la même montre prouve bien que tu n'as plus aucune retenue.
C'est très fort quand même. J'aime beaucoup le dialogue de la fin, quoi. Donc n'offrez jamais la même montre à votre femme et à votre maîtresse. Hein. Voilà, réalisé en 84 par Lamberto Bava, fils du grand Mario, et dissimulé, on le comprend, sous le pseudo de John Hold Jr. Cette friandise connut une genèse très difficile que je n'ai pas le temps d'évoquer. Ça, c'est juste que pour pondre un scénario aussi stupide à mi-chemin entre les dents de la mer et même un giallo, alors ça, comme ça qui tombe un peu, ils devaient se rendre compte que c'était assez stupide, ils s'y sont mis à 8 en tout. 3 crédités pour l'histoire originale et 5 pour le scénario. Bon, c'est assez invraisemblable. Bon, sinon, il s'agit vraiment d'un un nanar très estampillé années 80 avec une pieuvre géante en plastique, des acteurs plus inexpressifs les uns que les autres, plus inexpressifs que la pieuvre qu'on voit pourtant très très peu, une musique bon tant pis et puis une mise en scène qui cumule les faux raccords. Voilà, c'est un vrai nanar ital. Et comme dans tous ces films, l'actrice principale finit par se retrouver à poil sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et le film te termine donc en queue de poisson, enfin, ou en queue de poulpe, ou je ne sais pas, de ce que vous voulez. Voilà, et le pire dans tout ça, c'est que j'apprécie quand même.
Eh bien, merci pour ta franchise et tes critiques, Manu. On continue, on va maintenant parler du cinéma dans Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Le cinéma, eh bien, ça commence vendredi avec le festival du film lycéen pendant toute l'après-midi, tandis que la soirée d'ouverture officielle, elle, démarrera à 20h30 avec la projection du film Suzanne de Katel Kileveré, un film tourné en région et avec Sarah Forestier que Vincent va enfin pouvoir rencontrer. Je pense qu'il en ferait tout d'avance. Mais non, il n'est pas là, mais bon, tant pis. Et puis un cinéma sans Emmanuel Mouret, eh bien, ce n'est pas concevable. Nous aurons donc droit à la présentation de son dernier film, Une autre vie. Oui, c'est un nom de film d'auteur français, je pense que ça en est un. Ce sera ce samedi soir à 21h30 dans l'opéra Berlioz et en présence de Virginie Ledoyen qui joue dans le film. Tandis que la soirée de clôture le samedi suivante, elle vous proposera en avant-première nationale le nouveau Roman Polanski, La Vénus à la fourrure. Emmanuel Seigné, qui en est l'interprète principal, sera là également. À noter aussi 2 projections en avant-première pour le film de Guillaume Gallienne, Les garçons et Guillaume à table, l'adaptation de son one-man show, que vous pourrez voir au choix, au Diago ou au Gaumont. Comme ça, tout le monde est content. La liste des avant-premières est non exhaustive, il y en a un bouquet. J'ajouterai également celle du film La Marche, lundi 28 à 19h au Corum, un film avec Olivier Gourmet, Jamel Debbouze et Toufik Jalab, qui est joué dans Né quelque part. Que je vais pouvoir revoir, je suis contente. Ouais. Cette édition du Cinémède fait également la part belle aux copies restaurées de Pasolini à Scarface, en passant par un hommage posthume à Patrice Chéreau, des rencontres aussi bien sûr à travers des tables rondes organisées au Quorum, grâce auxquelles vous pourrez échanger au choix avec Daniel Auteuil, avec la grande Marisa Paredes, Agusti Villarunga, ou encore Gilles Jacob qui aura une carte blanche mardi 29 à partir de 20h pour une soirée qu'il présentera. La sélection officielle vous proposera comme chaque année 12 films venus de tout le pourtour méditerranéen, des films égyptiens, turcs, grecs, devant lesquels je m'endormirai très certainement parce que le cinéma, eh bien, c'est un rythme intense et soutenu qui vous demande de puiser dans des réserves d'énergie que les apéros professionnels vous enlèvent très rapidement. Voilà, c'est pas ma faute, mais c'est assez sournois. Une compétition de cours aussi, qui j'espère sera meilleure que l'édition 2012 parce qu'il n'y avait pas grand-chose qui m'avait marqué. Et puis, histoire de bien remplir aussi cette semaine de cinéma, des panoramas, une sélection animation, documentaire et même expérimentale. On suivra tout ça avec Vincent au jour le jour. Et Manu.
Et le 1er novembre, une nuit consacrée donc à Brian De Palma, une nuit en enfer avec 4 films, Carrie, Pulsion, Blowout et Scarface.
Voilà, le cinéma, ça commence donc vendredi et c'est jusqu'à samedi 2.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Alors très très vite pour clôturer tout ça, l'agenda samedi, ce samedi 26 octobre, en plus en marge du Cinémed, à 17h25, c'est l'avant-première du Sens de l'humour de Marine Canto au Diagonal et c'est en présence de la réalisatrice. Dimanche 27 à 17h25, également l'avant-première de Jasmine de Alain Huguetto en présence du réalisateur au Diagonal toujours. Mardi 29 à 17h30, une séance unique. Au Diagonal toujours, ce sera Histoire de ma mort de Albert Serra. Et puis au Nestor Burma, le même soir, une soirée rencontre avec Emmanuel Cabrera et avec la projection de son film Grandir à 19h30.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, c'était Cinérama. Rendez-vous la semaine prochaine. On n'est pas encore sûr parce que, comme je vous le disais, on va avoir une semaine extrêmement chargée due au Cinémed. En tout cas, si on revient, ce sera avec Vincent. Juste après, 24 notes secondes sera consacrée à la musique classique.
Et à Gershwin, apparemment. Et les musiques de Gershwin dans les films de Woody Allen, Robert Benton.
Eh bien, merci pour cette précision, Manu. À la semaine prochaine.
Il n'y a pas de gagneur, rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.